Émile ? Émile ?
Elle le cherche. La nuit est en train de tomber. Il s'est installé derrière la tente pour scruter la terre.
J'ai cru que tu t'étais perdu. Pourras-tu répondre la prochaine fois que je t'appelle ?
Il acquiesce. Elle s'agenouille auprès de lui.
Tu fais quoi ?
Il lève un regard tout enfantin vers elle et déclare fièrement :
Renaud et moi, on fabrique une route pour les fourmis.
L'ascension du lendemain se déroule en majeure partie dans les sous-bois. Le sentier monte en pente douce, mais en contrepartie, il bénéficie de la fraîcheur des lieux. À plusieurs reprises, il rencontre des petits ruisseaux et, vers midi, ils en profitent pour faire un brin de toilette. Johan commence quelque peu à perdre la notion du temps. Elle a l'impression qu'ils sont partis depuis 2 semaines déjà. Ils croisent peu de randonneurs. La sieste dans la mousse fraîche et verte des bois s'éternise. Émile a la respiration sifflante et Johan préfère ne pas s'éloigner. Elle reste assise à côté de lui, guettant les mouvements entre les arbres. Elle aperçoit un jet vert très brièvement et elle doit résister très fort à la tentation de réveiller Émile pour le lui montrer. Après leur repas réhydraté du soir, un étrange risotto à la tomate et au basilic qui a un arrière-goût de champignons, Johan est contrainte de constater qu'ils n'auront pas l'espace suffisant dans ce sous-bois fourni pour monter leur tente. Elle soumet à Émile l'idée de dormir à la belle étoile et elle est soulagée de voir qu'il en est ravi. Ils s'installent dans un étroit espace dégagé d'où ils peuvent apercevoir une portion de ciel.
« Tu connais les étoiles ?»
demande Émile à Johan.
« Oui, quelques-unes. »«
Fais-moi deviner, d'accord ?»«
D'accord. »
Il ne parvient à trouver que l'étoile du berger et il déclare que la casserole a plutôt une forme de poêle à frire, ce qui les fait rire tous les deux. Ils s'endorment, bercés par le son du vent dans le feuillage. C'est une douce nuit. L'étoile du berger brille particulièrement fort.
C'est ma dernière toile, d'accord ?
Émile acquiesce. Sa mère a installé dans l'herbe, sur un gros rocher plat, une toile blanche, une palette de peinture contenant 4 couleurs, blanc, bleu, vert et rouge, et un pinceau fin.
Je te propose qu'on la peigne à deux. Tu es d'accord ?
Il acquiesce. Ils sont dans une jolie clairière. Elle a dit qu'ils étaient bientôt arrivés aux cabanes dans Saber. Ils y seront dans 2 ou 3 jours.
Mais on va devoir s'appliquer.
Je m'applique toujours.
Elle lui sourit.
C'est parfait alors. Qu'est-ce que tu aimerais représenter sur cette toile ?
Il hausse les épaules. Elle lui désigne la clairière, les montagnes blanches, le ciel d'un beau bleu.
Regarde autour de toi. Il y a bien quelque chose que tu aimerais peindre, non ?
Il tend un doigt droit vers elle, vers sa poitrine.
« Moi ?»
demande-t-elle surprise. Il acquiesce avec un rire moqueur.
« Alors tu t'occupes de me peindre et moi j'ajouterai le paysage ensuite ?»«
D'accord. »
Il lui désigne un gros rocher. C'est là qu'elle doit poser. Elle le regarde se saisir du pinceau et réfléchir intensément à la façon de procéder. Enfin, il trempe le pinceau dans une première couleur. De là où elle se trouve, elle ne voit pas de laquelle il s'agit. En revanche, elle entend sa respiration saccadée, difficile. C'est de plus en plus marqué chaque jour.
C'est bon ?
Cela doit bien faire 1 heure qu'il est penché sur son tableau, et Johan sent ses épaules chauffer. Elle est en train d'attraper un coup de soleil.
Presque, dit-il.
Il donne un dernier coup de pinceau par-ci, un autre par-là, et l'invite à le rejoindre. Elle sourit discrètement en découvrant les traits grossiers et irréguliers du dessin. Mais très vite, son amusement est balayé par autre chose, par la surprise. Car la femme du tableau, assise sur le rocher, bien qu'un peu biscornue, semble être quelqu'un d'autre. Elle a les cheveux bruns, beaucoup plus foncés que les siens, et coupés courts, au ras des épaules. Mais ça n'est pas tout. Elle porte une robe d'été blanche à pois rouges et un chapeau blanc. Émile attend sa réaction, un sourire aux lèvres. Johan fronce les sourcils.
« C'est moi ?»
demande-t-elle le plus naturellement possible.
« Bah oui. »
Il ne semble pas percevoir le problème. Elle constate.
J'ai une jolie robe. »
Mais il se contente de se relever et de lui dire
« À ton tour, tu dois ajouter le paysage. »
Dans l'herbe, assis en tailleur, adossé contre un arbre, Émile a 10 ans. Il assiste au mariage de sa tante. C'est l'été et il se trouve à Aix-en-Provence. Le clocher de l'église sonne. Les talons de la mariée résonnent sur les pavés de la ruelle. Les invités suivent le couple de jeunes mariés jusqu'à la voiture. Marjorie est en retrait. Elle vient d'avoir 14 ans. Ils ne se parlent plus beaucoup tous les deux. Il en avait assez qu'elle le colle. Et puis, elle est devenue bizarre. Elle a des boutons sur le visage et un appareil dentaire. Elle colle des posters ridicules dans sa chambre et ses copines gloussent comme des poules au lieu de rire normalement. Aujourd'hui, elle a déclaré qu'elle n'assisterait pas au mariage, car sa robe la boudinait. Les parents ont insisté et elle a fini par les suivre en grognant. Elle reste en retrait des invités, les bras croisés. Émile la rejoint alors que les mariés montent en voiture sous les applaudissements. Ils ne disent pas un mot. Ils regardent la foule qui s'éparpille, qui discute par petits groupes. Au bout d'un moment, il entend Marjorie renifler et il se tourne vers elle.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Rien. »«
Dis-moi. »«
Rien, je te dis. »
Il hausse les épaules, mimant l'indifférence. Il n'en fallait pas plus pour que Marjorie lâche enfin ce qui la tracasse.
« Je serai jamais aussi belle qu'elle. »
déclare-t-elle avec lourdeur. Émile a un air stupéfait.
« Elle n'est pas si belle pour une mariée. Elle a déjà 40 ans et elle a un nez crochu. »
Marjorie se met à rire entre ses larmes.
« Non, je parlais pas d'elle. »«
Tu parlais pas de Tati Hélène ?»
Marjorie secoue la tête.
« Non, je parlais de maman. »
Émile suit son regard. Elle observe leur mère en pleine discussion avec d'autres convives quelques mètres plus loin. Il n'y a jamais vraiment fait attention. Est-ce que sa mère est belle? Elles le sont toutes forcément quand on est petit. Il ne s'est jamais interrogé là-dessus. Mais aujourd'hui, au milieu du groupe qui discute sur le parvis de l'église, c'est vrai qu'elle resplendit. On ne remarque qu'elle au milieu de tous ses invités. C'est peut-être à cause de son large chapeau blanc. Mais pas seulement. Elle a une façon douce et calme de se tenir debout. Et puis, elle porte une jolie robe d'été. Émile s'en aperçoit seulement. Une robe blanche à pois rouges. Elle a l'air d'une petite fille comme ça, ou bien d'une princesse de dessin animé. Elle est distinguée et coquette. Il la regarde longuement, debout au milieu des convives, dans sa robe blanche à pois rouges. Il veut graver cette image de sa mère dans sa mémoire. À côté de lui, Marjorie marmonne en reniflant.
« Tu peux le dire que je suis moche à côté d'elle. »
Mais il ne l'entend pas. Joanne attend que la peinture sèche pour remettre la toile dans son sac à dos. Elle attend le lendemain matin. Elle l'enroule soigneusement dans un vêtement avant de la glisser dans son sac. Elle ne voudrait pas qu'elle s'abîme. Derrière la dame au chapeau blanc et à la robe blanche à pois rouges, elle a peint la clairière dans laquelle il se trouve, l'herbe verte, les rochers, le chemin caillouteux au loin, les mélèzes, les dents dans sa bère qui se découpent sur le ciel bleu chargé de petits nuages ronds. Cela donne une peinture étrange et un peu décalée. On se demande ce que fait la dame dans cette tenue de ballerine perdue au milieu de la montagne. Ils mettent 3 jours de plus pour atteindre les cabanes dans sa bère. La fatigue d'Émile et sa respiration de plus en plus difficile les oblige à s'arrêter une journée entière. Elle le laisse dormir dans la tente et en profite pour nettoyer leurs vêtements dans un petit ruisseau et les faire sécher au soleil. Lorsqu'ils arrivent enfin, Émile semble ébloui par la vue. Il a du mal à reprendre son souffle et à tout embrasser du regard en même temps. Il se trouve sur un plateau verdoyant, entouré et gardé par les plus beaux sommets des Pyrénées. Les altières aiguillent dans sa bère, le pic de Pétragem, le pic dans sa bère. Au milieu de ce vallon paisible se trouvent 3 authentiques cabanes de bergers en vieille pierre, dont le toit en tôle semble avoir été rafistolé maintes fois au cours du temps. Différentes couches se superposent sur la charpente. Chacune des cabanes est protégée par de gros blocs de rochers. Le calme qui règne ici est total. Même les vols des vautours dans le ciel se font silencieux, comme pour respecter l'intimité du lieu. Johan fait quelques pas et dépose son sac au pied d'un gros rocher.
Un berger vit encore dans la plus petite des cabanes. Les deux autres sont destinées aux randonneurs, mais elles ne sont pas gardées. D'après ce que j'ai lu, c'est plutôt sommaire. Il y a juste des murs, un sol et le toit.
Émile l'a à peine écouté. Il se tourne sur lui-même pour embrasser le panorama qui s'offre à eux. Un vallon désert, verdoyant et lisse au milieu des montagnes. Un écrin de calme gardé par les géantes de calcaire.
C'est beau,
s'extasie Émile en se laissant tomber à côté d'elle. Il refuse la gourde qu'elle lui tend. Il répète encore.
C'est vraiment beau. C'est comme le paradis sur terre.
Johan sourit.
Si le paradis était là, ça m'irait et moi. Pas toi?
Il acquiesce. Johan fouille dans son sac et en extirpe un livre jauni.
Tu fais quoi? Demande Émile.
J'essaie de retrouver une citation.
Une citation?
Oui, sur la beauté, sur ce que tu as dit par rapport au paysage.
Il la regarde sans vraiment comprendre, tourner les pages de son livre jauni et s'arrêter de temps en temps pour lire une ligne avant de reprendre sa recherche. Enfin, elle dépose le livre au sol et déclare
« Je l'ai !»
Elle lève le regard droit devant elle face au paysage pour réciter
« La beauté n'est pas dans l'objet regardé, mais dans nos yeux. »
Émile laisse passer quelques secondes pour demander
« Ça veut dire quoi ?»«
Selon toi ?»
Elle lui pose une colle. Il réfléchit, les yeux en l'air, se mordillant la lèvre.
« Je sais pas, » finit-il par avouer vaincu.
« Il n'existe pas de réponse exacte, tu sais. Chacun comprend les choses à sa manière. C'est pour ça qu'une citation peut parler à quelqu'un et pas à un autre. »«
Ah !»
Je crois qu'elle dit que tout le monde n'est pas capable de voir la beauté autour de soi. Il faut avoir une âme suffisamment belle pour l'apercevoir.
Émile reste la bouche entrouverte. Elle lui suggérera de recopier la citation dans son carnet ce soir, s'il en a envie. La porte de la plus petite cabane s'ouvre, les faisant sursauter tous les deux. L'homme qui en sort est jeune, ce qui les surprend. Ils ont eu l'habitude d'avoir pour modèle des bergers et des hommes bien plus âgés. Hippolyte, Pierre Alain. Mais l'homme qui leur fait face a la quarantaine, des cheveux bruns en épi. Il porte un pantalon beige et une chemise blanche salie par le temps et ses conditions de vie plutôt rustres.
« Vous êtes les derniers à repartir !» lance-t-il en venant à leur rencontre.
Johan se relève, Émile l'imite.
« Pardon ?» demande-t-elle.
« Les autres randonneurs sont tous repartis en début de matinée. Je savais pas que vous étiez encore là. »
Johan comprend la méprise.
« Oh non, nous venons juste d'arriver !»
Le berger la regarde avec incrédulité.
« Vous voulez passer la nuit ici ?»
Elle acquiesce sans comprendre la raison de sa surprise. Il leur désigne le ciel bleu où des nuages tout ronds et cotonneux semblent faire la course.
« Le plus gros orage de chaleur de la saison est annoncé pour ce soir. Vous écoutez jamais les informations ?»
Il comprend à la mine déconfite de Johan et celle perdue d'Émile que non.
« La plupart des randonneurs le font. » C'est pourquoi ils sont tous redescendus en début de matinée. Vous aurez plus le temps de le faire maintenant.
On peut quand même dormir ici, non ?
Interroge Johan. Le berger semble réfléchir et se tourne vers les cabanes.
Celle-ci a le toit totalement poreux. Vous serez trempé en à peine une heure.
Il dirige son regard vers l'autre cabane plus loin.
Vous pouvez vous installer dans l'autre. Elle devrait vous abriter de la pluie. Mais ça risque de tonner. Et s'il y a trop de vent, je donne pas cher de la porte d'entrée. Le loquet tient mal.
Johan hausse les épaules. De toute façon, ils n'ont pas le choix.
L'intérieur est en terre battue. J'espère au moins que vous avez des tapis de sol confortables.
À leur mine déconfite, il comprend que non. Il lève au ciel des yeux désespérés.
Je vais vous prêter des bougies et quelques allumettes. Je parie que vous avez pas de lampe torche non plus.
Ils n'ont même pas besoin de répondre. Le jeune berger fait déjà demi-tour pour aller leur récupérer tout cela dans sa cabane. La cabane est rustique. Le sol en terre battue est sale, irrégulier. Les fenêtres sont encrassées. Cependant, ils ont la surprise d'y trouver une table en bois, un long banc et une cheminée a priori condamnée. Johan y abandonne son sac, les bougies et les allumettes avant de rejoindre Émile dehors. Même maintenant qu'ils savent qu'un orage va arriver, ils sont bien en peine de croire aux prévisions du berger. Les nuages courent vite dans le ciel, mais celui-ci reste parfaitement bleu et paisible. Il s'allonge au cœur du vallon pour profiter des derniers rayons du soleil avant la tempête. La tempête se prépare. Le ciel s'obscurcit. Les nuages qui déferlent sont de plus en plus noirs. Un vent froid s'est levé. Johan a bloqué leur porte d'entrée branlante avec la table en bois. Ils mangent tous les deux assis sur le banc, la gamelle en fer sur les genoux. Enfin, Johan mange, Émile non. Il n'a pas touché au semblant de spaghetti bolognaise réhydraté.
J'ai pas faim. Fais un effort, on a marché toute la journée.
J'ai envie de vomir, je suis fatigué.
Elle se redresse inquiète.
Tu as envie de vomir ?
Ouais, et je vois trouble.
Elle s'interrompt, la fourchette à quelques centimètres de la bouche.
Tu vois trouble ?
Je veux juste dormir, maman.
Elle abandonne le récipient en fer et la fourchette et elle se lève.
D'accord, je vais t'installer ton duvet dans ce coin-là. La terre est plus meuble.
Elle le regarde tituber en avançant. Elle a un étrange pressentiment. La tempête se prépare. Un premier coup de tonnerre déchire le ciel et une bourrasque s'infiltre par l'interstice d'une des fenêtres. La bougie s'éteint et la pièce se retrouve plongée dans une semi-obscurité.
« La bougie !» murmure Émile.
Elle l'aide à parcourir les derniers mètres jusqu'à son duvet.
« C'est rien, je vais la rallumer. »
Il s'allonge. Elle lui apporte l'emballage plastique de leur repas du soir, n'ayant rien de mieux sous la main.
« Tiens, si tu as envie de vomir. »
Elle s'installe à côté de lui et attend qu'il ferme les yeux. Sa respiration est saccadée ce soir encore. Elle essaie d'ignorer ce second coup de tonnerre qui déchire le silence du vallon. Elle essaie de taire la peur qui naît en elle à l'idée de cet orage à venir. Crac ! L'allumette fait naître une flamme. Elle rallume la grosse bougie sur le rebord d'une des fenêtres et en dispose d'autres, cette fois au cas où celle-ci viendrait à mourir de nouveau. Elle en dispose tout autour de la pièce. Puis elle prend place sur le banc et s'efforce de finir son repas. Le ciel gronde lourdement. Un autre coup de tonnerre se prépare. Elle fixe la bougie sur la fenêtre. Elle y concentre toute son attention pour ne pas trembler. Elle le sent frémir dans son duvet, dans le coin sombre de la pièce. Elle essaie de lire depuis quelques minutes à la lueur de la bougie. Le ciel s'est calmé. « Pour un temps seulement, » présage-t-elle.
« Ça va ?»
demande-t-elle en se tournant vers lui. La voix qui lui répond est faible et étouffée.
J'ai mal à la tête.
Elle se lève et se déplace avec sa bougie auprès de lui. Elle s'assied sur la terre battue.
Tu as toujours envie de vomir ?
Il secoue la tête.
Et ta vision ? Comment tu vois, Émile ?
C'est tout noir des fois.
Comment ça ?
Sa voix est étranglée.
Des fois, je vois plus rien. C'est tout noir.
Et après ? Et après, ça revient ?
Ouais, des fois.
Elle puise au plus profond d'elle-même pour s'efforcer d'avoir l'air sereine.
C'est rien, trésor. Quand tu auras dormi un peu, ça ira mieux.
Son instinct de mère refait surface. Face à la tempête, c'est tout ce qu'elle a trouvé pour rester à flot. Elle passe une main sur son front, comme si elle s'attendait à y trouver de la fièvre. Mais il n'en a pas. Évidemment, il n'a pas attrapé de virus. C'est le tronc cérébral, tout déraille de l'intérieur.
Tu veux que je te raconte une histoire pour t'aider à t'endormir ?
Elle le voit acquiescer.
D'accord. Alors, tu connais l'histoire de Tom Pouce ?
Non.
Je vais te la raconter, mais ferme les yeux. Tu pourras te laisser bercer.
Il obtempère. Il s'est endormi. La tempête a repris au dehors. Le vent souffle. La porte d'entrée frémit dans ses gonds. Les vitres des fenêtres tremblent. De temps en temps, un coup de vent particulièrement violent réussit à s'infiltrer dans la pièce, soufflant la moitié des bougies. les éclairs zèbrent le ciel, illuminant la pièce d'une lueur inquiétante. Puis la foudre s'abat dans la montagne. Ça fait un vacarme assourdissant. Pourtant, Émile dort. Johan va s'en assurer régulièrement, avec de plus en plus de fébrilité. La pluie tombe drue sur le toit en tôle. Elle a froid. Elle finit par se rouler dans son duvet, elle aussi, aux côtés d'Émile. Pourtant, elle ne peut pas dormir.
Maman.
La pluie, le vent et le tonnerre font un vacarme tel qu'elle met plusieurs secondes à entendre la voix d'Émile, pourtant à côté d'elle.
Maman.
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
J'arrive plus à respirer.
Il parle de façon saccadée. Avec tout ce vacarme au dehors, elle n'a pas entendu son souffle qui devenait difficile. Elle puise encore dans ses ressources pour rester calme.
Il faut que tu te détendes, Émile. Ça ira mieux quand tu seras calme.
J'arrive plus à respirer.
Elle sent la main d'Émile qui agrippe la sienne, qui la broie. Il commence à paniquer. Elle hausse le ton pour essayer d'étouffer son angoisse.
Émile, écoute-moi. Il faut que tu te calmes. Concentre-toi sur...
Elle cherche quelque chose dans l'obscurité de la pièce au moment où un éclair zèbre le ciel.
Regarde les éclairs dans le ciel. Regarde cet orage sur la montagne. C'est un superbe spectacle.
La foudre tombe quelque part au milieu des falaises de calcaire. Nouvel éclair.
Regarde, Émile, c'est un spectacle qui fait peur, mais qui est beau aussi.
L'éclair illumine la pièce. Elle voit son visage défiguré par la panique et ses yeux marrons qui essaient de s'accrocher à la fenêtre, au ciel, aux éclairs.
C'est bien, trésor. Continue de regarder ce spectacle.
La main d'Émile broie la sienne. Sa bouche s'ouvre frénétiquement pour essayer de happer l'air. Un râle rauque en sort. L'air ne passe pas, ou difficilement. Le pressentiment était bon. La tempête se préparait, dehors et à l'intérieur. C'était pour cette nuit. Johan sent les larmes qui coulent sur ses joues. Pourtant, elle ne quitte pas son ton calme et rassurant. Elle lui parle encore et encore.
Tu peux compter les secondes entre l'éclair et le tonnerre pour estimer à combien de kilomètres est tombée la foudre. Je jouais à faire ça quand j'étais petite, quand j'avais peur du tonnerre.
La bouche s'ouvre et se referme avec des mouvements brusques. La nuque est raide. Elle est soulevée par des sursauts brusques pour essayer de faciliter le passage de l'air dans la trachée.
Mon père disait qu'une seconde équivalait à un kilomètre. Tu veux compter avec moi ?
C'est la fin cette fois. Les yeux d'Émile se révulsent. Elle prie pour que le calvaire prenne fin, pour qu'il n'endure pas plus longtemps cette terreur, cette lente asphyxie. Ce sont ses derniers souffles. Avec le peu d'air qui lui reste, Émile appelle sa mère, il agrippe sa main, il a besoin d'elle plus que jamais. Pourtant c'est Johan qui est là, pas sa mère. Un souvenir remonte brutalement à sa mémoire avec la force d'une bourrasque. Une forêt en plein été. Un lac sauvage d'un bleu noir profond et inquiétant. Un lac entouré de ronces et d'herbes hautes. Une étendue d'eau immobile. Des branches, des plaques de vase. Et quelques feuilles qui flottent en surface. Et un petit corps. Une tête blonde. Un t-shirt blanc. Une tempête à l'intérieur de sa poitrine. Quelque chose qui ravage tout, qui détruit son monde. Des hommes dans l'eau, des hommes qui attrapent son petit. Ses mains qui griffent, qui battent l'air pour prendre son petit, pour le serrer contre elle une dernière fois, pour le ramener à la maison. Des hommes en noir qui la retiennent, qui emportent Tom loin d'ici. Elle a fait une terrible erreur, elle n'aurait pas dû. Elle n'est pas seulement un compagnon de voyage pour une ultime escapade, elle n'est pas seulement la femme d'Émile. Elle est une mère. Ce soir, plus que jamais, elle est une mère et elle comprend qu'elle s'est fourvoyée. Elle a empêché une mère de serrer son petit dans ses bras une dernière fois.